Alors, on va commencer cette séance. Donc, merci à tous d'y assister. Donc, nous avons vraiment le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Olivier Favreau.
Bonjour, je suis ravi aussi.
L'Université Paris-Nanterre, on dit comme ça, Vincent.
Oui, oui.
Et qui va nous présenter donc, son texte sur valeur, exploitation et économie des conventions. Et ensuite, Nicolas de la Silva, du CEPN, introduira la discussion. Alors, Olivier, c'est à toi.
Très bien. Bon, bah, écoutez, en tout cas, moi, je suis ravi d'être ici. D'autant que je retrouve plein de visages familiers. Et je vais faire connaissance d'autres personnes, sûrement. Alors, vous voyez le titre de l'exposé, ça correspond, et ça va correspondre substantiellement à l'article qui porte ce titre, publié dans les cahiers des copeaux. Mais quand même, comme j'ai, contrairement à ce que vous pensez peut-être, j'ai du mal à me répéter, j'ai essayé quand même de recogiter sur ces questions-là. Alors, je peux peut-être je sais pas quel était le public, là il y a un public très très averti. Bon, je vais gagner du temps ici, peut-être gagner du temps ici aussi, qu'est-ce que l'économie et les conventions. Alors voilà le plan que je vais suivre. Alors, je vais essayer de ramasser de façon synthétique la façon dont, en relisant Marx, on peut avoir commencé à avoir l'idée, parce qu'a priori, il faut quand même une certaine imagination, une certaine bienveillance pour trouver un Marx conventionnaliste ou un conventionnaliste marxiste ou marxien. Alors je vais essayer de ramasser le plus possible de l'argument. C'est la première partie, c'est celle qui est vraiment centrée sur qu'est-ce que je vais aller chercher chez Marx. Mais il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qui est dans l'article. Mais bon, tout le monde n'a pas forcément lu dans le détail l'article. En me relisant, d'ailleurs, j'ai trouvé l'article assez pénible. Et donc, je vais essayer de faire ça. Et puis après, je vais quand même développer l'idée des deux espaces, mais un espace qui n'est pas l'espace des valeurs à la Marx et qui est l'espace des valeurs à l'économie des conventions. Bien sûr, ça va s'appliquer, comme je l'ai fait dans le papier, à la question de l'entreprise, mais je vais le faire de façon beaucoup plus explicite et j'espère plus pédagogique. Voilà, ça c'est le plan que je vais... Alors... je ne l'ai pas détruit ce truc-là. Bon, ça c'est la fameuse citation. Non, mais vous allez la retrouver tout à l'heure. Alors voilà, le point de départ. Ce que je vais chercher chez Marx, et qui, je suis désolé, c'est totalement lié à mes années de formation, puisque je suis tellement vieux que j'ai connu Nanterre dans les années 70, donc je suis passé par la moulinette d'Abraham Froy, Marx, etc., Morishima, en fait, l'économie de Marx, qui, alors, dans le débat, des vrais experts de Marx diront, c'est présent chez Marx, mais diront jusqu'à quel point je surinterprète les choses en me connectant à en particulier à Morishima. Donc l'idée principale, c'est que l'essentiel du capital de Marx ne se situe pas du tout dans un espace ordinaire, où il est question de, où il y a des prix, des livres sterling, des francs et des dollars, mais dans un espace quand même très très particulier, enfin pour nous aujourd'hui, là je rappelle jusqu'à quel point je ne suis pas marxiste, mais qui sont des heures de travail abstrait, qui est quand même pas... Et donc, l'essentiel de la théorie va se situer dans cet espace des valeurs, mais évidemment nous vivons tous, nous pauvres humains, dans un espace des prix, et de temps en temps, l'analyste, le théoricien, le grand théoricien, doit revenir à ce qui se passe dans l'espace commun. Alors oui, il y a deux processus. Il y a un processus que Marx... Qu'est-ce que j'ai fait dans l'autre ? Oui, j'en reviens. Il y a d'abord un processus d'abstraction de l'espace des prix, avec une démarche que Marx voulait scientifique au sens le plus fort du terme. Je vais vous rappeler certaines choses. Alors, pour les amateurs, je vais faire semblant d'avoir de grandes lectures philosophiques, mais la référence sous-jacente, c'est évidemment Hegel, il y a le monde des apparences, et si vous restez coincé, je vous donnerai la citation tout à l'heure, si vous restez coincé dans le monde des apparences, jamais vous ne ferez de la science. Il faut atteindre l'essence des phénomènes. Et donc c'est pour ça que Marx va construire cet espace des valeurs. Voilà. Donc ça, je vais vraiment exploiter ça à fond, bien sûr, c'est dans le papier. Et derrière, oui, je fais partie de la génération qui s'est farcie à travers Abraham Froy et Bérébi. Un bouquin qui est quand même un grand bouquin. Il y a vraiment eu une époque où, vraiment, non seulement nous tous, on disait Marx, enfin, mais on faisait lire Marx aux étudiants, y compris le Marx mathématique. Voilà. Alors, sur l'espace des valeurs, alors, je vais mettre tout de suite au fond. La grande idée de Marx, c'est, bah, après tout, vous voyez, un physicien qui veut réfléchir sur la chaleur. La chaleur, pour nous, c'est une notion de sens commun, hein, c'est la sensation de brûlure sur la peau. Évidemment, ce que je viens de décrire ne trouve absolument pas sa place dans une théorie scientifique de la chaleur, qui en fait, je crois, alors ne me posez pas la question trop précise, je crois que c'est un problème de vitesse d'agitation des particules. Vous voyez, on passe de la sensation de chaleur à une question de vitesse d'agitation des particules. Allez, là, au fond, Marx, qui, il ne faut jamais l'oublier, a une démarche scientifique par rapport à l'économie. Il a besoin, comme le physicien dont je viens de parler, de construire un système de mesure qui va lui permettre de faire un travail scientifique. Donc, ça va être les fameuses heures de travail abstrait. Alors, là, si on réfléchit à ce fonctionnement, et puis si vous connaissez bien sûr, ne serait-ce que de façon élémentaire, Marx, il y a deux objectifs dans la construction de l'espace des valeurs travail. D'abord, faire de la science, et quand même, la motivation, c'est de faire apparaître l'injustice fondamentale, structurelle, du monde dans lequel on vit, et donc ça va être cette théorie du profit fondée sur l'exploitation. On pourrait dire, bon, les lois scientifiques, ok, on va utiliser des variables totalement objectives, et puis quand il s'agira de dénoncer l'injustice du monde capitaliste, bah là on va mobiliser des valeurs, des variables subjectives, ou en tout cas non objectives. Alors pas du tout. Bon, ça c'est le premier point, c'est que Marx veut construire une théorie, même une mesure de l'injustice objective, hein, à travers sa notion d'exploitation. Alors vous voyez, ce qui est très fort dans cette analyse, c'est que, évidemment c'est ça qui va l'opposer à Proudhon, pour dénoncer l'injustice, vous n'avez pas besoin de poser un jugement moral. Enfin, dans le discours, hein, dans la vie de Marx, dans son et même. Hein, donc pour arriver à faire apparaître l'injustice du monde réel, eh bien vous utilisez exactement la même méthode scientifique que pour analyser, ben, ça sera par exemple la théorie des prix, du chômage, de l'emploi, de ce que vous voulez, tout phénomène quantitatif. C'est évidemment, enfin, un projet théorique assez incroyable, hein. Très habile en plus, puisque il va choisir un mot qui, bon, qu'il a désormais marqué définitivement et pour l'éternité de son empreinte, le mot exploitation, qui à l'origine d'ailleurs n'a pas immédiatement évidemment la connotation morale qu'elle a aujourd'hui. Après tout, on peut exploiter une forêt, hein, mais quand même. Voilà. Alors, il faut quand même saluer l'artiste. On va faire de la science avec Marx, pas de la dénonciation morale, et en même temps on va obtenir le même résultat que si on avait procédé, mais un résultat bien mieux fondé, que si on avait fait qu'en se livrant tout de suite à une opération de dénonciation morale. Voilà. Alors évidemment, il va falloir on vit dans l'univers des prix, et donc il va falloir, hein, de temps en temps, que l'analyse reparte des valeurs pour aller au prix. Alors voilà, moi j'ai été élevé là-dedans, donc c'est le problème de la transformation des valeurs en prix, voilà, etc. Bien. Et vous voyez dire que du coup, c'est un problème presque technique. Alors, j'espère avoir dit quelque chose de, bon, peut-être un petit peu orienté, mais franchement pas vraiment contestable. Bon, on verra dans la discussion. Alors maintenant, si je regarde ça de l'extérieur, il y a quand même un truc absolument incroyable, vraiment absolument incroyable, que réussit Marx. Il nous montre, ou il essaye de nous convaincre, que c'est uniquement dans un espace d'analyse où l'injustice va apparaître comme un phénomène objectif, parce que valeur travail, que l'on peut espérer découvrir les lois scientifiques de l'économie. J'insiste, c'est dans un espace où vous arrivez à construire une théorie, une mesure de l'injustice, que vous découvrez les lois fondamentales de l'économie. Si je m'éloigne complètement de l'appareil de Marx, la leçon est absolument incroyable. Si vous ne comprenez, si vous n'accédez pas à quelque chose de fort sur l'injustice, vous ne comprenez rien à la réalité. Hein. Alors, bon, là, c'est là où peut-être les chemins se séparent. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que Marx a vraiment réussi son affaire et que sa théorie de la valeur travail, éventuellement perfectionnée par certains de ses successeurs, a atteint les objectifs qui s'étaient fixés. Je fais un constat sociologique. Je connais des gens qui sont, j'en connais beaucoup, j'ai des très bons amis qui sont, je veux dire, marxistes, mais je ne crois pas qu'ils pensent que la théorie de la valeur travail est correcte ou qu'il y a une version qui est partagée par tout le monde. Et il y a même des gens qui pensent qu'elle est incorrecte, voire inutilisable, voire dangereuse. Alors, question, mais voilà la démarche. Si... Alors, évidemment, hein, vous pouvez refuser totalement ce constat. Si, la théorie de la valeur travail, c'est indiscutable, etc. Bon, ben, ok, alors, écoutez le reste de mon exposé comme juste un espèce de jeu de l'esprit. Mais sinon, pour quelqu'un d'un peu honnête, d'intéressé, question un peu cruelle, est-ce que ce projet grandiose de Marx... C'est là où on comprend l'injustice qu'on comprend le monde, ce projet grandiose. Est-ce qu'il faut l'abandonner ou en rester à la théorie de la valeur de travail ? Voilà la démarche. Alors, l'idée à ce moment-là peut émerger de... Vous voyez, c'est l'espace des valeurs travail. Et Marx va donner, même si ça vient des classiques, évidemment un sens très très particulier à valeur. Mais... Alors, je vais mettre tout de suite les... Est-ce que, au fond, voilà, programme de travail. Est-ce qu'on peut garder l'idée d'un deuxième espace, c'est-à-dire ne pas rester uniquement dans l'espace des prix, mais bien différencier les deux fonctions. Vous vous souvenez qu'il y avait une fonction qui était, en fait, d'aboutir à une meilleure théorie des prix que si on restait dans l'espace des prix. Bon, on abandonne cette hypothèse-là. Deuxièmement, on renonce à, guillemets, au rêve de construire un concept d'injustice qui serait entièrement réductible à une formulation objective. Et de partir de quelque chose qui est une expérience humaine absolument générale, la dénonciation de l'injustice est, c'est une expérience absolument fondamentale. Et il n'y a pas besoin, la théorie a son utilité après. Mais dans un premier temps, il n'y a pas besoin d'expertise théorique sophistiquée, y compris d'ailleurs même pour parler d'exploitation, même si il n'y a pas non plus de consensus sur la norme de justice. Néanmoins, il y a évidemment des décennies, des siècles de débats sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste, et qui ne va pas apparaître évidemment dans le modèle de Marx. Alors, oui, le programme qui commence à se dessiner, bon, ok, il y a un espace des prix, ok, voilà, avec des valeurs monétaires, mais au fond, les valeurs normatives, alors là, je les prends dans un sens normatif, dans un sens absolument extensif, et la justice en est une, donc la dénonciation de l'injustice, mais ça existe. Donc il y a bel et bien, là, c'est un constat un peu presque superficiel, il y a bien un espace des valeurs, on en discute continuellement. Quel est le débat politique ? On ne va pas mobiliser des valeurs. Eh bien, est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette idée qu'on a absolument besoin de ces deux espaces pour... Alors, je suis économiste, pour faire de l'économie. C'est au fond... Enfin, tel que je le formule, on peut d'ailleurs... ça me paraît difficile quand même de ne pas l'accepter, mais pour moi, c'est comme ça que je résumerai Marx. Je le formule de cette façon, c'est seulement dans un espace d'analyse où l'injustice apparaît comme un phénomène objectif que l'on peut rechercher les lois scientifiques de l'économie. Ça, c'est selon moi le projet de Marx. Est-ce qu'il pourrait devenir quelque chose de différent, à certains égards de plus réaliste, à d'autres égards de moins, évidemment moins ambitieux, je le formule. De toute façon, je vous laisserai bien sûr le PowerPoint. Et de toute façon, oui, c'est dans l'article. C'est seulement dans l'interaction entre l'espace des prix, okay, et l'espace des valeurs, mais ainsi redéfini, où l'injustice apparaît, mais je dirais directement, en tant que telle. Alors, ce n'est pas un phénomène objectif, donc là je m'éloigne définitivement de Marx, au sens de, voilà, le taux d'injustice dans la société française, c'est tant, alors que le taux d'exploitation est évidemment une mesure quasi mathématique. Mais c'est, alors ben, j'utilise le vocabulaire des sciences humaines et sociales, c'est un phénomène intersubjectif, hein, ni subjectif ni objectif, et évidemment d'ordre normatif. Et donc, il y a un programme de recherche où c'est dans l'interaction entre ces deux espaces qu'il faudrait rechercher les lois scientifiques de l'économie. Alors, on peut tout à fait dire, c'est un problème, enfin, évidemment, ça n'a rien à voir, je vais quand même argumenter, et de fait, rien à voir avec Marx, moi je pense quand même que si, en tout cas, bon, c'est pas un projet, enfin, peu importe. Et donc, voilà, là, vous voyez, j'ai transformé. Et puis, donc, le reste de l'exposé va consister à exploiter un petit peu ça. Voilà, au fond, hein, vous vous souvenez, je ne vais pas le remettre, parce que je devrais, enfin, si je peux le remettre, hein, vous vous souvenez du truc de Marx, enfin, version Morishima, pardon, l'espace des prix, l'espace des valeurs, le processus d'abstraction, hein, dans un cas, et puis toute l'analyse de la transformation des valeurs en prix quand il s'agit de revenir dans l'espace des prix. Alors, le schéma se modifie. Donc, alors, l'espace des... Alors, donc, il y a un espace des prix, il y a un espace des valeurs. Mais, bon, je ne joue pas avec les mots. Hein, enfin, si, je joue avec le mot valeur, comme d'ailleurs Marx l'a fait. Mais, il ne s'agit pas des mêmes valeurs. Je pense que l'espace des prix va se... dans cette philosophie, parce qu'au fond, l'espace des prix est un peu dévalorisé par Marx. Là, ça redevient le seul espace, enfin, en termes de variables quantitatives, dans lequel on vit. Et puis, il y a sans doute d'autres choses que des choses purement quantitatives dans l'espace des prix. Ne serait-ce que, je dirais tout à l'heure, la réflexion sur la qualité, par exemple. L'espace des valeurs, alors là je me restreins aux valeurs normatives, enfin je me restreins, il s'agit des valeurs normatives. Et évidemment, alors la question qui va se poser, c'est la question de la relation entre ces deux espaces, alors je ne sais plus ce que j'avais fait, oui, la question la relation entre ces deux espaces qui se limitait à la question de la transformation des valeurs en prix chez Marx, alors qu'est-ce que ça deviendrait dans ce schéma? Alors, ici, un de mes collègues allemands, très érudit, quand j'avais raconté ça, m'avait dit, ah ben tu sais, alors, lui était un véritable érudit. Tu sais, si, il y a des conventions chez Marx, alors pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, hein, dans les 2000 pages de la Pléiade, donc vous pouvez trouver, là, on était guidé par le mot convention, ou quand même l'idée, ça apparaît deux fois. Et d'ailleurs, une des deux fois, l'idée y est bien, mais pas le mot. La première fois, c'est, voilà, livre 3, chapitre 8. Tout ça, c'est l'article d'Edouard Poulain dans la revue économique, à propos du taux de profit moyen, ce qui d'ailleurs n'est pas une absurdité, hein, que le taux de profit moyen soit au fond un taux conventionnel. Et puis, dans la façon, vous savez, de ramener le travail complexe comme un multiple du travail simple, dans les deux cas de figure, Marx, au fond, enfin, je suis le véritable expert qui est Edouard Poulain, dit le raisonnement conventionnaliste, il y a une convention, c'est-à-dire, vous voyez, quelque chose qui va s'imposer, peut-être après discussion, mais pas comme un théorème de mathématiques, ça, on peut le retrouver. Mais évidemment, s'il n'y avait que cela, l'espoir de faire soit un Marx conventionnaliste, soit une économie des conventions avec une entrée marxiste ou marxienne serait faible. Alors il faut être franc, toutes ces questions ont été de nouveau stimulées d'une façon un peu décisive. Pour le public étant ici très averti, j'ai pas rappelé toutes les références qu'on aurait pu trouver chez Robert Salé et autres, ou chez André Orléans quand il travaille avec Robert Boyer. Mais bon, j'ai remis une citation qui est malheureusement très peu exploitée par ceux qui ont lu et qui utilisent Voltanski et Capello dans le nouvel esprit du capitalisme, et que je fais figurer d'ailleurs dès le début de l'article hein, des cahiers d'économie politique, et qui, alors le raccourci, après c'est développé sur pas mal de pages, mais le raccourci, est extraordinairement énergique. Hein. Au fond, l'exploitation, c'est l'inverse de la justification. Alors, vous avez toute une théorie de la justification, donc ça veut dire que si vous inversez tout, vous avez donc, dans l'approche Voltanski-Thévenot d'économie convention, ça veut dire que vous avez toute une théorie d'exploitation. Hein. Vous voyez la formule, on peut la lire, c'est, en tant que notion critique, l'exploitation est tout à fait cohérente avec la norme de justice enfermée dans le concept de cité, en sorte qu'il n'existe pas deux logiques, l'une qui serait orientée vers le dissensus et l'autre vers le consensus, mais deux points de vue qui peuvent être portés sur le monde tel qu'il est depuis une même position normative. Les couleurs, évidemment, sont de moi. La dénonciation de l'exploitation inverse, en effet, la maxime, qui est une façon de résumer un peu la théorie de la justice de Voltanski et Thévenot, le bonheur des grands fait le bonheur des petits, au fond, qui est au fond, un peu l'équivalent de Rawls, qui constitue la clé de voûte de l'axiomatique des cités, en affirmant, puisqu'on inverse, que c'est au contraire le malheur des petits qui fait le bonheur des grands. Alors, j'ai à peu près. Alors, je parle depuis combien de temps déjà ? Comment ?
Oui, là, tu as dépassé les 30 minutes.
Ah bon, alors d'accord.
31 minutes,
d'accord. Ok, alors c'est la première.
Dans l'espace des prix, tu as 20 minutes, et dans l'espace des valeurs, tu en as 30.
Voilà, donc là, j'ai la moitié. C'est la moitié de. Alors, donc, pour résumer ça. Vous voyez, alors, P devient P', le nouvel espace des prix, V devient V'. Alors, l'espace des valeurs, tel que je l'ai caractérisé, c'est les entités sont intersubjectives, et convention, l'archétype d'une entité intersubjective. Dans l'espace des prix, les prix, après ça, il suffit de lire l'étiquette, ça c'est parfaitement objectif. Donc, type de données quantitatives dans un cas, qualitatives dans l'autre. Exemple, etc. Le moteur de la dynamique, c'est la concurrence dans l'espace des prix. Dans l'espace des valeurs ainsi repensées, c'est la critique. Là, je me réfère à tout ce que Voltanski, Capello et Voltanski tout seul dit là-dessus. Alors, application, après tout, il y a beaucoup de gens, c'est vraiment comme pour la pause, hein. Beaucoup de gens utilisent l'idée qu'il y a, bien sûr, un espace des valeurs. Alors là, c'est amusant de comparer les deux ouvrages de Piketty. Le Piketty numéro 1, de 3-4 ans, c'est un travail sur les inégalités, où la partie, dans l'espace des prix, là, est vraiment prédominante, même si, bien sûr, il y a un certain effort d'interprétation. Par contre, le deuxième bouquin, Inégalité et idéologie, majoritairement dans l'espace V'. Bon, je pourrais m'arrêter là, et voilà. Et donc, mais simplement, voilà. Est-il possible d'aller plus loin ? Et donc, il me reste combien de temps, Philippe, tu me dis, pour aller
là,
plus loin ?
Il te reste exactement, tu as encore 30 à 40 minutes.
Donc ça ?
Et là, tu es à 20 minutes.
Ah d'accord, je comprends. D'accord, ok.
Voilà. Tu as dit que tu as promis que tu allais dépasser un petit peu.
Non, mais je vais, c'est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ?
Voilà.
Ah, on s'arrête.
Et on reprend.
Et enfin, très très bien. Alors écoutez, voilà ce que je vous propose. Il n'y aura rien de, je dis ça pour Nicolas, de fondamentalement différent, bien sûr. Mais je vais mettre un peu plus les points sur les i. Et ça permet d'ailleurs de, je pense, des connexions plus analytiques et plus analytiques avec la théorie de la régulation. Alors voilà. Donc je vous ai imposé, j'arrive avec cette idée qui vient quand même de Marx. Après tout, il y a ces deux espaces. Bon, alors maintenant on va travailler avec un espace des prix et puis un espace des valeurs, entendu au sens des sociologues, de l'homme de la rue, des philosophes, des politiques, sans espace des valeurs au sens ordinaire du terme. Bon, so what? Ok, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Alors, chez Marx, il y avait un lien, évidemment. Chez Marx, évidemment, il a des choses extrêmement fortes et claires. L'espace vraiment causal, c'est l'espace des valeurs. L'espace des prix, bon, ok. Et le mécanisme de passage de l'un à l'autre, c'était la question de la transformation. C'est-à-dire un truc un peu technique. Alors, notez que valeur et prix, c'était un espace, dans les deux cas, ça venait de la volonté de Marx, hein, de faire une théorie objective de la justice, bah, c'était d'une certaine façon homogène. C'est-à-dire que valeur et prix, c'est pas le même système d'unité, mais c'était, comment dire, logiquement, c'était homogène. Alors, dans ce que j'introduis, oula, ça se présente beaucoup moins bien. Parce que l'espace des valeurs, tel que je l'ai mis, est purement qualitatif. Et donc, il s'agit de mettre en relation un espace fondamentalement qualitatif, même s'il y a l'intersubjectivité pour le stabiliser, et puis un espace quantitatif. Alors, pour que ce soit intéressant, en tout cas, c'est l'hypothèse que je vais essayer de suivre, je vais essayer de garder le rêve de Marx, c'est-à-dire, oui, de poursuivre sous une forme différente le rêve de Marx. N'y aurait-il pas un lien causal, vous voyez, entre cet espace des valeurs, New Look, et puis cet espace des prix? Mais, d'une part, ça va sûrement devenir un petit peu plus compliqué, parce que le quantitatif lui-même, je pensais aux qualités, vous voyez, les prix c'est difficile à penser sans les qualités, c'est quand même un concept normatif, donc oui, c'est pour ça que l'espace des prix s'étend, ça c'est une chose, et puis par ailleurs, alors ça c'est une énorme différence par rapport à Marx, c'est qu'évidemment dans les jugements que nous portons sur l'injustice du monde, nous utilisons des données quantitatives, hein, les prix, les salaires, les profits, les dividendes, etc. Donc ce qui veut dire que, alors que chez Marx, c'était net, clair, catégorique, par des valeurs, on va au prix, sauf énorme erreur de lecture de ma part, puisque là je dis il y a un truc à sens unique, là il y a quelque chose de récursif, c'est-à-dire les valeurs agissent sur les prix, et les prix agissent sur les valeurs. Oh ! Bon, alors là, bon, ça devient... Et donc, par ailleurs, c'est le troisième... J'arrive là au troisième point. Voilà ce que j'appelle le truc que j'ai introduit dans l'article des cahiers d'économie politique et dans les rapports pour l'OIT. L'espace des valeurs, qui va regrouper des normes, des lois, des règles, etc., il va avoir une complexité... absolument phénoménal, et donc le passage de ces valeurs-là au prix, il n'y a aucun espoir de trouver quelque chose d'aussi mathématique, d'aussi simple, enfin on va dire c'est pas si simple que ça, que les règles de transformation des valeurs en prix. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que cette corrélation, bon, soit c'est le désordre complet, soit s'il apparaît un certain ordre, c'est, en tout cas c'est l'hypothèse de travail, ça prendra la forme d'un régime d'intersubjectivité et de normativité. C'est-à-dire qu'il y a des connexions subtiles, complexes, où d'ailleurs les philosophes, les sociologues, les politistes, les historiens sont de bien meilleurs experts que les économistes, entre eux, les règles de droit, les règles morales, les comportements effectifs, etc., etc. Mais bon, donc ça se présente très 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 mal. C'est-à-dire que l'exercice auquel je vous ai convié dans cette première demi-heure, bon, ben, franchement, bon. Alors, je vais faire une gigantesque hypothèse simplificatrice, mais je pense qu'elle n'est pas absurde. Je vais dire, eh ben, écoutez, je fais l'hypothèse, on peut ne pas être d'accord, le lieu principal de production d'injustice dans le mode de production capitaliste, c'est l'entreprise. Notez que c'est après tout, d'une certaine façon, cette hypothèse, on la doit un peu à Marx, hein. Voilà, c'est le lieu principal, je ne dis pas que c'est le seul, voilà. Et je vais encore simplifier cette hypothèse simplificative. Je vais dire que, puisque je vais braquer le projecteur sur l'entreprise pour réfléchir sur la relation entre valeurs, l'espace des valeurs et l'espace des prix, je vais dire que, alors, je ne vais pas remonter au 19e siècle, je vais prendre l'entreprise du 20e siècle et même le deuxième à partir de l'entre-deux-guerres, je vais faire cette hypothèse. Voilà, il va falloir que je vous convainque, au moins de sa plausibilité. Eh bien, il y a le lieu principal de l'injustice, c'est la différence entre société et entreprise. Je vais maintenant le définir. Hein. Je vais juste commenter ceci pour vous donner l'esprit de la partie, disons, proprement convention du travail. Je pense que cette différence, qui n'est guère perceptible pour l'homme de la rue, même pas d'ailleurs souvent pour les intérêts, enfin bon. Donc ça, c'est un inconvénient, sauf qu'après tout, comme vous le savez, les valeurs travail ne sont pas observées. Hein. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas perceptibles ni pour les salariés, ni même pour les patrons. Donc là, quand même une petite... J'essaie de me défendre. Bon, cette différence qu'il faut que je vais illustrer, cette différence entre société dans un sens précis et entreprise dans un sens également précis, provoque de telles tensions et de façon systématique, de telles critiques dans les capitalistes démocratiques le capitaliste ne peut pas faire fonctionner les entreprises d'une façon au moins approximative, sans donner satisfaction à ses critiques. Mais il ne peut donner satisfaction que de façon insatisfaisante à ses critiques, tant que du moins que demeure cette différence sur le plan juridique, comme dans les faits. J'annonce ce que je vais essayer d'argumenter. Et au mieux, tout ce qu'on peut espérer, vous voyez, dans ce jeu de il y a une tension critique énorme, et il faut le système doit le gérer et essayer de le rendre supportable, c'est une stabilisation provisoire dans quelque chose que j'ai essayé d'un peu expliciter, un régime d'intersubjectivité, de normativité, et dedans, effectivement, on peut isoler ou résumer sous la forme d'une convention. Voilà, alors là, je vais utiliser massivement l'idée de convention. Une convention qui gère cet écart, cette haie, et qui gère la critique que suscite immanquablement cette critique. Voilà. Alors, c'est ça ce qu'on va faire. Je le garde pour la conclusion. Alors, maintenant, je voudrais vous convaincre qu'il y a un problème absolument fondamental qui remonte à l'émergence de cette institution incroyable qui s'appelle l'entreprise dans le système capitaliste. Ça ne remonte pas du tout au Moyen-Âge. Là, je subis l'influence de mes collègues chercheurs en gestion à l'école des mines. L'entreprise dont je vais parler, c'est quelque chose qui naît dans le dernier tiers du 19e siècle. Hein. Bien sûr, vous trouvez le mot entreprise, même des composantes de cette réalité bien avant, mais non, attention. Et même, vous allez voir, c'est seulement à partir de l'entre-deux-guerres que, pour des raisons juridiques, que les choses deviennent nettes. Alors, ici, j'ai mis, ma foi, vous voyez, vous faites un cours sur l'entreprise, de gestion ou d'économie, vous disposez sur un tableau toutes les parties prenantes, et voilà, j'en voilà une certaine liste. Et donc, si vous voulez faire une théorie correcte de tout ça, entre parenthèses, bon courage, vous voyez tout ce qu'il faut théoriser. Hein. Alors, comment est-ce qu'on met de l'ordre là-dedans? Alors, il y a une chose qui est super claire et qu'on doit aux juristes dans cette immense configuration. Alors ça, c'est super clair, c'est la société qui est créée, qui est fondée par les premiers actionnaires et qui est un être de droit avec des statuts, des possédants, et les membres de la société à chaque instant, à chaque seconde, si grande que soit la société, peuvent être définis d'une façon impitoyable, c'est très simple, c'est tous ceux qui détiennent à cet instant-là une action. Je vais prendre la société anonyme, la société par action, comme exemple type. Il y en a d'autres, mais ça, c'est quand même le truc principal. Alors, bon, il y a quelque chose de genre. C'est entreprise au sens commun du terme, c'est la boîte où les gens travaillent, voilà. Bon, voilà. Alors, notez que j'introduis un autre mot. Et puis, il y a, attendez, parce que j'ai dit qu'il fallait réfléchir sur tout ça, voilà. Il y a tout ça. Et tout ça, je sais pas comment vous l'appelez, disons entreprise. Alors, voilà un point très important, mais je veux dire complètement indépendamment de ce topo sur Marx. Il n'y a aucun espoir de faire une théorie économique sérieuse de l'entreprise si vous n'avez pas au moins deux concepts. Le concept de société, qui est super précis, et puis au moins un, mais à vrai dire une batterie d'autres concepts où là le label est complètement indéterminé. Je prends entreprise, mais si vous voulez autre chose, simplement vous me disiez quels sont les éléments qui en font partie. Vous notez, hein, ça c'est toujours un élément de stupéfaction quand on le dit, les salariés ne font pas partie de la société. Hein. Et si vous réduisez entreprise à société, les salariés ne font pas partie de la société. Bon, alors voilà, il faut que j'aille vite. Et donc, attendez. Donc vous voyez que une entreprise, c'est un objet d'une complexité inimaginable. C'est le réseau de relations, je ne vais pas répéter ce que vous avez devant les yeux, entre tous ces éléments. Et donc, évidemment, il n'y a pas de nature de l'entreprise. Hein. Et donc, on comprend que le débat soit éternel sur les frontières de l'entreprise. Et au fond, la seule chose raisonnable à dire, c'est... là aussi, j'ai subi évidemment l'influence de mes collègues chercheurs en gestion et en histoire de la gestion. Au fond, l'entreprise, au sens le plus général du terme, ça n'est rien d'autre qu'une pratique. Une pratique qui implique tous ses partenaires. Mais cette pratique, par contre, elle a un besoin urgent de stabilisation. D'où l'idée que les conventions doivent sans doute jouer un rôle fondamental. Là, ce que je viens de dire de l'entreprise en termes de pratique, c'est un pur décalque de ce que Foucault dit sur l'État dans, allez regarder son séminaire celui notamment du 10 janvier 79. Alors, je vais aller très très vite, mais je vais pour vous montrer, donner tout de suite une petite illustration. Moi, je pensais naïvement que les salariés ont toujours fait partie de l'entreprise, ou de l'entreprise au sens strict. Eh bien non. Si vous lisez les travaux des historiens, il y a eu une époque qui n'est pas si éloignée. En gros, la fin du 19e, début du 20e siècle, les salariés, alors bien sûr ne faisaient pas partie de la société, mais d'une certaine façon, ils ne faisaient pas partie non plus de l'entreprise. Alors là, il faut aller chercher les travaux des historiens, j'en cite notamment un, et puis un autre que certains d'entre nous connaissons bien, David Marsden. C'est-à-dire, il faut s'interroger sur, au fond, les RH à la fin du 19e siècle. Alors, en réalité, à cette époque-là, les salariés n'étaient pas embauchés par l'entreprise, ni même la société. Ils étaient embauchés par un contremaître qui se faisait attribuer un budget par le manager, propriétaire du capital. Et là, effectivement, les fonctions étaient complexes. Et ce contremaître, Foreman, disposait de ce budget librement, pour recruter, payer les gens, etc. Et les gens se sentaient liés, d'ailleurs, même psychologiquement, à ce contremaître. Même s'ils travaillaient dans les mêmes locaux, ils ne se sentaient pas liés à quelque chose qu'on appellerait aujourd'hui l'entreprise. Ça s'appelle, en anglais, j'ai demandé à Pior, il m'a dit que c'est intraduisible, c'était ce qu'on appelle le drive system. Alors, ce système a donné lieu, sans doute, à de tels excès, puisque les contremaîtres se voyaient attribuer un budget. Évidemment, plus ils étaient radins dans l'utilisation de ce budget, plus leur rémunération augmentait. Ça a donné lieu à de tels excès, il faut lire en particulier Sanford Jacoby, qu'au début, avant et après la Première Guerre mondiale, la situation est devenue, j'allais dire, absolument explosive. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, après tout, si je le dis, pour vous montrer que ces questions juridiques ne sont pas secondaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'était le schéma précédent. Les salariés, qui ne font toujours pas partie de la société, sont rentrés dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est par l'invention du contrat de travail. Un contrat de travail, c'est pas quelque chose, enfin, sauf cas, que vous, c'est quelque chose que vous signez. Votre employeur, c'est la personne morale, c'est-à-dire la société. Le contrat de travail, vous savez, est en réalité très récent. Marx n'a pas connu le contrat de travail dont nous parlons. Le contrat de travail comme relation d'autorité par quelqu'un qui bénéficie d'un pouvoir de délégation de la société, ça c'est en France par exemple, c'est 1931, l'arrêt Bardoux, cours de cassation. Et en gros dans tous les pays c'est années 20, années 30. Même si la réalité du rapport hiérarchique, bien sûr, elle était très antérieure. Mais tout ça pour dire que c'est, vous voyez, dans l'entre-deux-guerres que le dispositif, alors vous voyez, je vais faire jouer un rôle très très important à l'articulation contrat de société, qui crée la personne morale, et contrat de travail. Donc ça s'est passé donc dans les années 30. Alors, voilà. Alors, il me reste combien de temps?
Là, il te reste à peu près 20 minutes.
Oh, d'accord, ok. Alors, bon, alors maintenant, ça y est, je vais. Vous voyez le. Non, je pense que tu t'es trompé. Il y a une erreur, je pense. Il doit, ça serait plutôt 10 minutes, à mon avis.
Ouais, ouais,
allez, 10 minutes.
Non, mais je t'ai prévu jusqu'à 15h30.
Ah oui, bon, dans ce cas-là.
15h30, mais pour moi, il est 15h presque 20.
Ouais,
on vous donnera plus de temps. D'accord, ok. Mais
écoutez,
10 minutes. Si, si, si. Non, 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 pas vraiment aux apparences. Si, si. J'ai besoin de 10 bonnes minutes. Alors, là, maintenant, je vais rentrer dans le. C'est-à-dire, je vais l'appliquer. Alors, évidemment, je vais le faire. Mais bon, en même temps, pour moi, le plaisir de cette séance, c'est que là, il y a un côté un peu séance de travail et puis de discussion. Imaginons que ce que j'ai raconté ne soit pas complètement stupide et qu'effectivement, il y a un énorme problème d'acceptation de cet écart entre. Alors oui, parce que ce que je n'ai pas dit, je ne vais pas le revenir en arrière, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous souvenez du schéma. Bah, attendez, oui, c'est ça. Ouais. Donc, non, mais ça c'est au fond, c'est. Oui, ça c'est très bien. Non, ça c'est le schéma de base. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que. Vous avez un immense. Bon, voilà le scandale de la. De structurel de l'entreprise, qui est un scandale politique. Vous avez un énorme système qui est piloté par quoi ? Qui est piloté par le petit, bon, il peut y avoir beaucoup de gens, le petit sous-système qui est la société. Voilà le point. L'entreprise, cet truc énorme, aux limites absolument indéfinies, est gouverné, comme par hasard d'ailleurs certains, est gouverné par quoi ? Il est gouverné par la société. Pour ça, vous voyez, il est tellement important d'avoir ces deux notions pour comprendre ce qui va se passer. Et évidemment, c'est un scandale du point de vue, là j'ai pas besoin de la théorie de la valeur travail, c'est un scandale politique au XXIe siècle et aussi au XXe siècle dans une société qui a une certaine exigence démocratique. Les gens, quand ils sont gouvernés, ils exigent de dire leur mot. Voilà. Alors, ce que je vais montrer rapidement, mais ce qui avait été très bien vu par la théorie de la régulation, c'est qu'il a fallu quelque chose pour gérer, réguler, rendre acceptable, et je ne veux pas dire ça de façon uniquement négative, ou uniquement rendre acceptable d'une certaine façon cet écart qui est à la base de tout. Hein. Après, vous voyez bien que, évidemment, les dirigeants sont mieux payés que les salariés, les dirigeants sont liés à la sphère financière, etc. etc., etc. Alors, le compromis fordiste, quelle est sa signification dans cette perspective conventionnaliste ? Alors, je vais le résumer, parce qu'après tout, je cherche une convention. Hein, on a tous enseigné ça et on enseigne en macroéconomie. En gros, le pacte fordiste, c'est liberté absolue pour le patronat d'innover, de remplacer le capital par le travail. Mais, il y a un grand mais, les gains de productivité doivent profiter aux salariés. Hein, je résume vraiment Boyer et autres en une phrase. Le taux de croissance du salaire réel doit être égal au taux de croissance de la productivité apparente du travail. Voilà. Ça, c'est quand même la clé du fameux compromis fordiste, donc la période, disons, pour aller vite, 45-75. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, alors, dans la clé d'interprétation que j'utilise ici, ça veut dire que on va gérer l'écart entre la société et l'entreprise au fond en intégrant les salariés uniquement comme consommateurs. Enfin, ce qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, était quand même un immense progrès. Mais surtout pas les faire participer au système de pouvoir de l'entreprise. Donc les salariés ne rentrent pas dans le système de gouvernance de l'entreprise, dans les conseils d'administration et autres, mais il y a une énorme compensation. Donc du coup, les managers gardent le pouvoir, mais une énorme compensation qui est en termes d'évolution du pouvoir d'achat. On note d'ailleurs que ça suppose un certain clivage dans le groupe dirigeant entre les managers et la finance. Là, on pourrait mobiliser toute la théorie keynésienne. Eh bien, je dis ça, moi, au fond, je suis tenté, comme conventionnaliste, de dire, eh bien ça, c'est une convention. C'est une, rendu, une convention qui a rendu, bon, d'abord, qui a engendré, qui a accompagné la social-démocratie hein, de ces 30 années, etc., qui a l'État-providence, tout, enfin, je ne suis pas du tout dire ça. Mais on voit bien, en même temps, la limite des choses. Vous, les salariés, vous n'entrez pas dans le système de pouvoir de l'entreprise. Mais par contre, vous êtes intégré comme consommateur. Tout ça va buter sur le milieu des années 70, la stagflation d'un côté, et surtout la crise de l'énergie. Hein, on voit bien que là, le fait que la barrière soit une barrière naturelle, dans une vision de la croissance qui est essentiellement quantitative, il y a une très grande logique. Bon, je considérais tout cela comme des hypothèses de travail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, alors, tout se désagrège dans les années 70. Et qu'est-ce qui va émerger à la place ? Alors, en fait, d'une certaine façon, ça a été le point de départ de tous les travaux qu'on a menés sur l'entreprise. Et alors là, je peux prendre comme tête de turc Milton Friedman. Hein, les actionnaires sont les propriétaires de l'entreprise. Étant les vrais propriétaires de l'entreprise, eh bien, c'est pour eux que doit être créé le maximum de valeur. Alors, évidemment, tout ici est ramassé. Là, cette proposition-là est très intéressante. D'abord parce qu'elle est fausse, c'est-à-dire que les actionnaires, en réalité, ne sont pas du tout les actionnaires de l'entreprise, puisque l'entreprise, ce n'est pas un objet juridique, ils ne sont même pas propriétaires non plus de la société. Alors, d'ailleurs, ça, c'est fascinant, comment quelque chose qui est faux du point de vue du droit a pu s'imposer, et aujourd'hui encore, quand je le dis, mais je le dis après beaucoup d'autres, hein, c'est tout ça, la source, ça, c'est en partie Jean-Philippe Royer, des dizaines de gens, il y a plein de gens qui disent, qu'est-ce que c'est l'histoire, etc. Alors je me dis, oh, ça, quand les gens ont ce type de réaction, je dis, il y a de la convention dans l'air. Et alors là, j'analyse le schéma fordiste. Il a buté sur une barrière qui est définitive, naturelle, etc. Et du coup, il y a eu une réaction. Alors, il faut utiliser un langage extrêmement politique. Une réaction d'une partie de la classe dirigeante et qui a réussi à mettre le pouvoir des financiers et en partie des actionnaires complètement à l'abri de toute contestation sur le mode, mais il s'agit du droit de propriété. Les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise. Le droit de propriété. Alors, bien sûr, ils doivent respecter toutes les règles, etc. Et peut-être que, comme citoyens, ils doivent voter pour des partis écologistes, etc. Mais là, il n'y a rien à objecter. En fait, il n'y a rien à objecter à l'écart entre société et entreprise. Et bien, ça, je crois que après l'échec de la convention fordiste, s'est imposée une convention assez toxique, hein, pour ne pas dire catastrophique. Et donc, puisque là, il ne me reste plus que quelques minutes, donc voilà, cette convention, elle exprime un renversement d'alliance. Là, je traduis les choses bien, bien connues. C'est-à-dire que, alors qu'avant, il y avait une alliance très keynésienne entre salariés et dirigeants dans les entreprises, après, l'alliance, elle se fait entre les dirigeants et les financiers. Et les salariés sortent du jeu. Alors, voilà, en fait, c'est ça l'essentiel. Sauf que, évidemment, si on, au terme de cet exposé, il y a de quoi être un peu découragé. Et donc, la question, vous voyez, y a-t-il un modèle de survie qui n'est pas encore été essayé ? Ben, écoutez, oui. Alors là, on peut rêver. Tiens, mais au fait, dans le système de pouvoir de l'entreprise, on voit bien la source salariale, la source manager, la source financière. Y a-t-il un moyen ? Enfin, je sais pas, là, je réfléchis au bois, vous voyez. Au fond, je fais de la science politique. Dans une société démocratique, il y a trois sources de pouvoir. Est-ce qu'il y aurait moyen de les combiner ? Alors, la chose intéressante, c'est que ça existe. Et ça s'appelle la codétermination. Ça existe dans la moitié des pays d'Europe. Donc je vais terminer là-dessus. Ça s'appelle la codétermination. C'est-à-dire, alors je vais tout de suite peut-être, voilà, je vais tout de suite aller là. Écoutez, alors justement, vous voyez, quand vous commencez à réfléchir de cette façon, c'était le cas dans tout ce groupe au Bernardin, commencez à vous intéresser. Et à ce moment-là, vous découvrez, là c'est Antoine Lyon-Camp et Robert Salé qui m'ont fait remarquer, mais au fait, si on lève le nez de nos manuels de microéconomie, de finance, ou même de la situation française, qu'on regarde un peu autour de soi, en Europe, uniquement en Europe, on s'aperçoit que, à bas bruit, sans grande proclamation doctrinale, de façon séquentielle, au total, la moitié des pays européens sont passés à un système où il y a un pourcentage significatif de salariés dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance. Il y a eu trois vagues. Une vague immédiatement après la guerre, ça c'est essentiellement l'Allemagne. Une deuxième vague, ça c'est très intéressant, après 68, les années 70, tous les pays nordiques. Et il y a une troisième vague, qu'on oublie toujours, c'est après la chute du mur de Berlin, beaucoup des pays de l'Est entrés dans l'Union européenne ont adopté ces systèmes. Voilà. Je pourrais en parler plus, etc. Et donc voilà, je vais vraiment terminer, c'est ma dernière diapo. C'est alors au fond, mais évidemment, il y a plein de. Là, ce sont les points d'interrogation qu'il faut valoriser. Je me dis tout ça, dégage une sorte de. À gros traits, évidemment, très gros traits, une sorte d'histoire conventionnelle qui n'est pas originale parce qu'elle s'inscrit un peu en complément, pas en contrepoint, hein, vraiment en contrefort plutôt, de l'histoire régulationniste, mais en apportant une touche un peu différente. Alors d'abord, il s'est passé quelque chose dans l'entre-deux-guerres, tout de même, qui est là la vraie figure de l'entreprise, ce que j'ai expliqué sur l'articulation contrat de société, contrat de travail. Bon, la Deuxième Guerre mondiale, ok, le Fordisme, je prends, mais j'observe que, de façon très intéressante, un certain nombre de pays, pour des raisons qui tiennent à leur histoire, ont expérimenté, sans le crier sur les toits, hein, des pays de langue allemande, puis après les pays scandinaves, etc., ont essayé quelque chose, avec quelque chose d'ailleurs de stupéfiant, c'est-à-dire j'aurais dû rajouter une flèche, c'est que quand je discute par exemple avec mes collègues allemands et que je leur demande qu'est-ce que vous enseignez sur la codétermination, et ils me disent, alors, dans les départements de gestion, d'économie et de finance, et ils répondent, mais rien du tout. On enseigne évidemment toute la théorie, toute la théorie de la finance, la théorie de l'agence, etc. Et donc là, il y a un phénomène qui est absolument fascinant. Il y a au fond une convention différente qui aurait pu prendre, mais qui n'a pas pris. Alors là, ça, on peut l'imputer, le mettre au débit du Fordisme, etc. Et en tout cas, du Fordisme, enfin de l'échec du Fordisme plus exactement, et qui doit être associé à la vague de financiarisation néolibérale à partir des années 80. Et alors du coup, évidemment, on a envie de prolonger les traits et de dire, alors, là ce sont vraiment mes dernières phrases, oui en effet, j'aurais parlé une heure finalement, ou à peu près une heure. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc là vraiment c'est de la prospective. Le plus naturel, surtout je pense pour nous en France avec l'exécutif actuel, c'est on va encore plus vite, encore plus loin, encore quelquefois encore plus intelligemment, mais on va encore plus loin, encore plus avant dans le néolibéralisme. Et le schéma que je vous avais présenté, pour ça que j'ai au fond, ça valait la peine, au 19e siècle, le fait que les salariés n'étaient pas dans l'entreprise. L'entreprise au sens de la petite organisation, plus grande que la société, mais moins grande que la... Ils n'en faisaient pas partie. Parce qu'il y avait une relation marchande entre les salariés et le contremaître. Et bien, quand on écoute tout ce qui se dit sur les auto-entrepreneurs, la dérégulation du marché du travail, etc., on se dit, il y a une tendance à refaire sortir les salariés de l'entreprise. Alors oui, je pourrais élaborer, etc., mais ça, c'est un scénario possible. D'ailleurs, beaucoup de gens tombent dans le panneau, peut-être le plus probable. Mais il y en a un autre qui serait, évidemment c'est celui qui m'intéresse le plus, qui serait de reprendre la convention qui n'a pas pris sur la codétermination, et, mais peut-être de la greffer sur la transition écologique. Et je pourrais en parler dans la discussion, ça s'appellerait, c'est ce pourquoi, une des choses pour lesquelles on plaide, deviendrait l'éco-détermination. Je vous explique de quoi. Bon, écoutez, merci de votre attention.